Shalom Bracha, Boker Tov, Boker Tov les Koulam. Et voilà, on est mercredi, et donc le mercredi, comme à notre coutumée, eh bien, nous étudions Parashat Hashavua. Alors c'est parti, Parashat Vayetse. Et alors là, eh bien, comment vous dire? Ça y est, l'identité d'Israël est mise en place, elle peut commencer à avancer. Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui a même commencé sa métamorphose pour devenir Israël, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc c'est bon, on peut y aller. Et comment ça commence? Pasouk dramatique. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Charana. Le premier verset de la paracha est dramatique puisque à peine l'identité d'Israël étant complétée, qu'on commence à voir le départ en exil. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Charana. Il part de Be'er Sheva, il sort de Be'er Sheva et il va à Haran. C'est un verset qui paraît anodin et pourtant c'est le début du départ en exil. Eh bien oui les amis, que faire avec cette réalité? Eh bien tout d'abord, il faut comprendre pourquoi la première apparition du peuple d'Israël en devenir, certes, mais quand même peuple d'Israël, ça y est, on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien doit être un départ en exil. Eh bien les amis, la réponse est très simple. La création du peuple juif va se faire en exil. Que ce soit ici à l'époque des patriarches ou alors bien plus tard, lorsqu'on va prendre notre dimension cette fois de nation, eh bien, on se créera en Égypte. On va arriver en tant que famille et on va devenir une nation en Égypte. En d'autres termes, eh bien, c'est en exil que l'identité nationale se crée. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans les autres peuples, dans les autres nations, le rapport qui unit les peuples à leur territoire, eh bien, est un rapport de, si vous voulez, nature. C'est-à-dire qu'il y avait des gens sur un plateau, un territoire, et donc ils se sont organisés en nations. En d'autres termes, c'est un lien naturel, ou plus exactement un lien parental. Le français appellera la France la mère patrie. Vaterland en allemand, Motherland en anglais. C'est-à-dire qu'il y a ici un rapport de parent à enfant. C'est bien le rapport de parent à enfant, mais il est dénué de tout sens moral. Je ne choisis pas mes parents. Mes parents n'ont pas choisi exactement quel enfant allait sortir. C'est un lien qui est naturel. C'est très fort, mais ce n'est pas le lien du choix, le lien qui est basé sur une valeur morale. C'est pourquoi le peuple juif, lui, ne va pas naître dans sa terre. Notre mère patrie, si on veut, eh bien, ce sera soit Haran pour l'époque des patriarches, soit l'Égypte. Or, vous savez que d'après la halakha, nous n'avons pas le droit de revenir vivre en Égypte, car on ne veut pas rentrer dans un complexe d'Œdipe collectif. Il n'y a pas cette dimension d'attachement interminable parent-enfant. À un moment donné, nous dit la Torah, « Alken yazov ish et aviv ve timo ve davak ve ishto ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas sortir de chez papa et maman et te marier. Le lien qui unira la terre d'Israël à son peuple est un lien non pas de parent à enfant, mais un lien de mari et femme, qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Eh bien, les amis, allons-y. Rentrons dans cette dimension-là. Yaakov doit sortir d'Eretz Israël. Il part en exil. Il sait ce qu'il a à y faire. Mais il y a le danger. Le danger, vous le connaissez, on le connaît tous, le danger de l'exilation, c'est-à-dire le danger d'être trop bien en exil. Là-bas, il aura un concept et une relation avec Dieu qui est complètement différente d'ici. Puisque là-bas, Dieu sera pour lui le Dieu du temps. Eh oui, il ne pourra plus être le Dieu de l'endroit puisqu'il ne sera pas au bon endroit. Et en fait, c'est ce que va expliquer un philosophe juif américain du XXe siècle qui s'appelait Avraham Heschel, qui dit, il a écrit un livre qui s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». Dans son livre, il explique que les juifs, à la différence des nations qui, eux, bâtissent des palais dans l'espace, des temples, eh bien, nous bâtissons des palais dans le temps. Les fêtes, le Shabbat, il a écrit un livre faisant l'apologie du Shabbat. Alors là où Avraham Heschel se trompe, car il se trompe, il nous dit que la notion de Kedushat HaMakom, de Mikdash, de Mishkan, est venue après la faute du Vaudor. Et que donc, avant cela, on ne voit pas de dimension sainte dans l'endroit. Et pourtant, il se trompe grandement. Car dans la Shirat Hayam, bien avant la faute du Vaudor, eh bien, il sera marqué « Teviemo vetitaemo behar nachalatecha machon neshivtecha pealta Hashem mikdash Hashem konenu yadecha ». En d'autres termes, dans la Shirat Hayam, on nous dit déjà, bien avant la faute du Vaudor, qu'il y a un endroit qui s'appellera Mikdash, un endroit dans la montagne que Dieu aura choisi. Abotai, la dimension de Kdushat HaMakom est une des dimensions sine qua non de la relation à Dieu. Il y a Kdushat HaZman, il y a Kdushat HaAdam et il y a Kdushat HaMakom, la Kedusha, la sainteté dans le temps, dans l'être et également dans l'espace. Et c'est ainsi que lorsque Yaakov part, juste avant de quitter Eretz Israël, il va se faire, si je puis dire, une injection, un vaccin anti-galout, un vaccin anti-exil. Vaïfga Bamakom. Il a touché l'endroit. Chazal nous dit, il n'est pas à Bethel, il est à Aramoria. Le Aramoria a sauté et est venu se placer à cet endroit-là. Il s'est rempli de Makom. Comme ça, maintenant, il peut passer l'exil. Il n'oubliera jamais qu'il devra rentrer à la maison. Le peuple juif a appris de Yaakov et lorsqu'il est parti en exil, il s'est habitué au moins une fois par an à dire l'an prochain à Jérusalem. Cet espoir bien en place, Yaakov peut partir. Lorsqu'il arrive, il va à Bavakom, et bien vous connaissez l'histoire du rêve de Yaakov. Il y avait Abraham Echel, nous nous avons l'échelle de Yaakov. Dans cette échelle, qu'est-ce qu'il y voit? Malaché Elohim, Olim veYordim bo. Aha! Olim veYordim bo. Mais attendez, mais de quoi parle-t-on? Quelle est cette échelle? Cette échelle qui fait le lien entre Shamaïm vaAretz. Cette échelle est très bizarre d'ailleurs. Parce que on nous dit d'un côté qu'elle a Mutsav Arza, c'est-à-dire qu'elle est posée vers le sol. Arza, le hey de fin vient dire que c'est une direction. Donc c'est vers le sol. Mais d'un côté, elle est Verosho Magia Shamaïma. Elle est vers le ciel. Alors, j'ai pas compris. Où est la base de l'échelle? Eh bien, en vérité, il y a deux échelles. Il y en a une qui part du sol et qui va vers le ciel, une qui part du ciel et qui va vers le sol. Au milieu, il y a un vide. Il manque un barreau, demandant à l'homme de ne pas monter comme un robot, mais d'être capable des fois de sauter le pas entre le divin et le monde, entre le monde et le divin. Akadosh Baruch Hu montre à Yaakov dans cette échelle, Malaché Elohim. Nous disent nos sages, il a vu quatre anges, ce sont les quatre galouillotes. En fait, Dieu est en train de lui expliquer qu'il va partir en exil maintenant. Et cet exil est prototypique pour tous les autres exils. Sache que les exils, aussi longs soient-ils, à un moment donné, olim, 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 aval yordimbo. À un moment donné, ils montent ces nations. Mais ne t'inquiète pas, ils finiront également par descendre. Fort de cet enseignement, Yaakov peut affronter l'exil. Il part, il arrive à Haran. Quel est son objectif? Eh bien, la Torah va nous expliquer exactement l'objectif du peuple juif en exil. Lorsqu'il arrive à Haran, tout d'abord, il rencontre les gens là-bas, il voit d'abord, tout d'abord, il rencontre un puits. À l'entrée de Haran, il voit la source de vie. Le puits n'est autre que la source de vie qui va tout simplement amener la vitalité au monde entier. Haran représente ici le monde entier. Et il voit également Shlosha et Dretson Rovtsim Alea. Il y a trois troupeaux dirigés par trois bergers, trois identités humaines différentes. Nos sages diront, il s'agit ici de Babylone, de la Perse et de la Grèce. Chacune de ces identités humaines représente quelque chose. L'homme cherche et recherche trois dimensions. La première, le pouvoir. Le pouvoir dans ce monde, ce qu'on appelle Amalchut. La deuxième, la richesse, l'opulence, ce qu'on appelle la Perse, il n'y a qu'un seul pourcent. Alors, j'ai été trop vite. La Malchut, c'est Babylone. Comment le sait-on? Eh bien, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vatehi Reshit Mamlachto Bavel. Le premier royaume, si on veut, de l'histoire, c'est bel et bien Babylone. Ensuite, pour ce qui est de la richesse et l'opulence, j'ai dit c'est la Perse. Il n'y a qu'à regarder les premiers versets de la Megillat Esther, voir comment le royaume perse s'est présenté. Et enfin, la Grèce. La Grèce, c'est quoi? La Grèce, c'est la réflexion, l'intellect, le sechel, comme on dit en hébreu. Vous allez me dire le mot l'esthétique, mais l'esthétique grecque était basée sur une réflexion. Nous avons ces trois identités humaines. Vous allez me dire, mais où est Rome? Rome, c'est tout simplement un mix des trois. Ils ont pris de chez chacun. Ils n'ont pas quelque chose de personnel. Ils n'ont rien donné à l'humanité qui est propre à eux. Ils ont pris tout ce que les autres ils avaient et ils l'ont mis en grand. On peut parler exactement de la même façon de la société occidentale et plus particulièrement des États-Unis. l'ambiance, le monde des valeurs des États-Unis ont été pris à l'Europe et ils ont tout mis en mode augmenté. Mais Kitsour, il y a trois identités humaines. Yaakov comprend qu'il est là pour apprendre aux autres comment eh bien, s'attacher à la source de vie. Il y a là-bas, ils le savent, le Be'er Basadé, mais ils ne peuvent pas aller boire, s'abreuver de la source de vie. Pourquoi ? Qui yesh even gedola al piaber. Il y a une grosse pierre qui bloque l'entrée à la source de vie. Alors Yaakov leur dit, mais pourquoi vous ne l'enlevez pas ? Et ils disent, on ne peut pas, on doit être tous ensemble pour enlever la pierre. Les nations lui disent, on sait qu'on a besoin d'unité pour réussir à arriver à la source de vie. Mais le problème, c'est que, alors je ne comprends pas, tous les jours, ils arrivent à enlever la pierre. Pourquoi ils la remettent ? Ils la remettent parce qu'ils ont très peur qu'un jour vienne un des trois sans les autres et profite tout seul. En fait, ils sont unis, mais que pour réaliser leurs propres intérêts. Vous savez, le Rav Anazir, le Rav David HaKohen, dans son commentaire du Marzor, du Sidour, de Rosh Hashanah, à propos de la Tfila, qui dit « Vayasu kulam aguda echad la'asot ratzon echa belevav shalem » On dit que Dieu est le maître du monde et à un moment donné, les nations, vayasu kulam, tout le monde va faire aguda echad, va faire un groupe pour faire sa volonté. Nous dit le Rav Anazir, ça existe. Ce groupe s'appelle l'ONU. L'ONU est là pour faire aguda echad, un groupe qui a pour rôle de la'asot ratzoncha. C'est quoi la'asot ratzoncha ? C'est de faire ta volonté. C'est quoi ta volonté ? Qu'il y ait la paix. Ah, il a fait méode, bon alors c'est bon. Okay, le seul problème, nous dit le Nazir, c'est que Zélo Belevav Shalem. Ce n'est pas fait avec tout leur cœur, puisque c'est fait uniquement pour que chacun y trouve son intérêt. À ce moment-là, Yaakov comprend qu'il doit leur apprendre que l'altruisme, l'unité, ne vient pas parce que je vais en tirer quelque chose, mais au contraire, parce que j'ai quelque chose à te donner. À ce moment-là, on lui dit, Yaakov leur dit, pour voir s'ils peuvent comprendre ce qu'il attend, ce qu'il est arrivé à leur enseigner, ce qui est venu leur enseigner, etc. Il dit, mais dis-moi, Ayeda Atem et Lavan ben Nahor, est-ce que vous connaissez Lavan, fils de Nahor ? Lavan n'est pas le fils de Nahor, il est le fils de Betuel. Alors pourquoi il dit cela ? Il dit, parce que je veux le rattacher à Abraham. Nahor est le frère d'Abraham. En d'autres termes, la question n'est pas du tout anodine. Est-ce que vous connaissez la Torah d'Abraham ? Payomrou, Yadano, on connaît. Oh ouais, oh, on a la Bible. À Shalom, là, vous savez que l'idéal de cette famille, c'est la sorte Shalom. L'amour Shalom. Ah, ouais, ouais, on connaît le Shalom. On connaît. Mais c'est un Shalom complètement manufacturé. Il n'est pas profond, il n'est pas réel. C'est juste pour que moi, j'y trouve mon compte. Et à ce moment-là, ils lui disent, d'ailleurs, il y a une représentante de cette idéologie qui arrive. Rachel arrive. Rachel, elle est bergère également. Elle est aussi une dirigeante. Elle va être celle avec qui Yaakov pense créer le peuple juif. Il ne sait pas encore que ça sera avec Léa également. Lorsqu'il voit Rachel, la première chose qui se passe, boum, Hollywood, le coup de foudre. Il la voit, il l'embrasse. Et tout le monde se moque de lui, et lui, il pleure. Pourquoi il pleure ? Parce que tout le monde se moque de lui. Quoi ? Un homme que personne ne connaît est arrivé, et la première chose qu'il fait, c'est d'embrasser la première fille venue ? Mais attendez deux secondes. Pourquoi il l'embrasse ? Il l'embrasse parce que c'est le moment de relier ces deux Neshamot. Il le sait. Il est venu pour se marier avec elle, de toute façon. Il aurait pu leur expliquer, leur dire, mais calmez-vous, enfin. Mitzvah ba'al yatra al tachmitzena. C'est le moment où il faut relier l'identité de Yaakov et celle de Rachel. Il pleure parce que personne ne comprend pourquoi Yaakov fait ça. Pourquoi Yaakov est en train de l'étaken olam bemalchut shaddai? Car ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque Rachel arrive, la première chose qu'il fait avant de l'embrasser, c'est qu'il arrive à la pierre et il la soulève tout seul. Il dit, vous n'êtes pas prêt encore à vous unir pour faire tikkun olam bemalchut shaddai? L'honora. Je m'en occuperai moi tout seul. Et à ce moment-là, eh bien, il prend sur lui de faire le tikkun olam. C'est pas pour lui seulement, c'est pour le monde entier, c'est pour eux. Mais il se moque de lui. Il se moque de lui et commence même à le prendre en grippe. Quoi ? On a besoin de toi ? Oui. Toute ressemblance avec un cas actuel où le peuple juif essaierait d'amener la Géoula dans le monde entier et les nations lui en tiendraient rigueur. À ce moment-là, Yaakov ne peut plus faire marche arrière. L'objectif sera de dévoiler le divin dans ce monde. Il arrive chez Lavan et avec Lavan, il se dit, enfin, chez Lavan, il lui dit, j'ai très bien compris qu'il fallait que je crée quelque chose pour pouvoir amener le dévoilement de Dieu. Ce quelque chose, c'est le peuple juif. je suis là pour me marier avec ta fille. Et ensemble, nous allons créer Am Israël. Bon, vous connaissez l'histoire, Lavan va lui dire, mais bien sûr, mais avec plaisir, travaille ici pendant 7 ans. Et finalement, il le trompe. Mazé, il le trompe. Au moment où arrive le jour de la 7e année, ça y est, c'est fini, le contrat est fini. Yaakov vient voir Lavan et lui dit, Hava et Ishti, ki maleu yamai ve'avoa elea. Donne-moi ma femme parce que ça y est, c'est le moment et je dois coucher avec elle pour avoir. Enfin, je dois coucher avec elle tout simplement. Rachid dira que c'est bizarre de parler comme ça, mais c'est bizarre, c'est terrible de parler comme ça. T'imagines, tu vas voir ton futur beau-père, tu lui dis, allez, donne-moi ma femme, faut que je couche avec elle. Mais nous dit Rachid, le'amit toladot nitkaven, qu'il n'avait que comme objectif de créer le peuple juif. Et la question reste posée, et alors, on n'est pas obligé de parler comme ça. Rabbeinu Bechaye vient et explique en disant, Nachon, on ne parle pas comme ça. Qui ? Toi et moi, tout le monde. Yaakov Avinu, lui, il n'a plus d'Yetzerara. Lui, il a été metaken chet Adam Arishon, il n'a plus de boucha. Il est en train de créer quelque chose qui est du domaine de Nishmat Israël qui a précédé la création du monde. À ce moment-là, Lavan, vous connaissez l'histoire, va mettre Léa à la place de Rachel. Mais la question qu'on doit se poser, ce n'est pas Lavan. Lavan, on sait qu'il est Racha. La question n'est pas tant non plus de Yaakov. Je vous renvoie au cours que j'ai fait sur Rachel Imenu. La question est de savoir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il a besoin de faire passer et Rachel et Léa dans l'histoire? Parce que Rachel et Léa, ensemble, vont créer le peuple juif. On a besoin de ce que représente Rachel et de ce que représente Léa. Rachel, elle est présentée comme étant Yifat Toar et Yifat Mar'e. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va influer à l'extérieur. Son fils, Yosef, va être celui qui va apporter au monde la parole d'Akadosh Baruch Hu. Léa est celle qui est Kol Kvoda Bat Melech Penima. Justement, c'est quand elle sort qu'il y a un problème. Léa, elle est celle qui va apporter les dimensions essentielles de l'intériorité du peuple juif. La Malchut, la Keuna, la Bechora. Léa, Rachel vont créer ensemble le peuple juif. Yaakov, avec ses femmes, va pouvoir maintenant s'occuper de corriger le premier problème de l'histoire. Puisque le peuple juif est censé avoir une responsabilité sur le monde, eh bien, cette responsabilité ressemble énormément à celle qu'entretient le Bechor. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le peuple juif est appelé Bechor, Béni, Bechori, Israël. Le Bechor n'est pas supérieur aux autres, il est responsable des autres. Or, si on y réfléchit de petites secondes, depuis le début de la Torah, ça marche pas très bien le Bechor. Que ce soit Caïn qui tue Evel, Ishmaël, Yitzhak, Esav, Yaakov, c'est pas tout feu tout flamme, hein, le Bechor. Ici, au sein du laboratoire d'Israël, eh bien, nous allons nous occuper de créer un Bechor ultime, un Bechor qui marche. Pour ce faire, on a besoin de plusieurs essais pour s'évoluer. Et c'est pour ça que Yaakov, il aura combien de Bechorot? Il n'en aura pas deux, puisque finalement, il y aura également Bilha et Zilpa. Et donc, il aura 4 Bechorot, car le Bechor, c'est le Bechor de la mère. Peter Rechem, le premier qui sort du ventre d'une maman. Et donc, on va voir que ça va aller crescendo. Le premier Bechor s'appelle Reuven. Pourquoi elle l'appelle comme ça? Nous dit Rashi que Léa a dit « Reu ma ben beni le ben chami ». Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est qui le fils de son beau-père? Son beau-père, c'est Yitzhak. Et donc, on parle de Esav. Elle dit, regardez la différence entre Esav et mon fils à moi, Reuven. Esav, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov et pourtant, il a voulu le tuer. Mon fils, il n'a pas vendu son droit d'aînesse à Yosef. Et pourtant, elle parle par une voix, évidemment. Et pourtant, il aura quand même envie de le protéger et de le sauver, de sortir du puits. En d'autres termes, Reuven est un Bechor qui, non seulement ne va pas tuer son frère, mais va essayer de le sauver, de le protéger. Zéafé, Zégadol. Seulement, c'est pas vraiment son frère. Et puis, c'est un frère qui n'est pas encore né. Donc, l'identité est en train de se mettre en place, mais c'est pas encore le top. Le deuxième Bechor sera le Bechor de Bilha. Bilha, c'est qui? C'est Dan. Dan vient au monde pour que Yosef naisse. C'est-à-dire que lorsque Rachel va donner Bilha à Yaakov, c'est pour qu'elle aussi ait un fils, comme l'histoire de Sarah et de Hagar. Donc elle dit, Oula ibané mimena. Dan vient au monde, pas seulement pour protéger Yosef, Mais pour que Yosef naisse, The Odio Tertov, c'est encore plus fort que Réhouven. Mais bon, là encore, il s'agit d'un frère, pas de la même mère. Ensuite, nous avons un deuxième Bechor, celui de Zilpa. Pourquoi Léa va donner Zilpa à Yaakov? Elle a des enfants, elle en aura même quatre, mais elle voit qu'elle n'arrive plus à en avoir. Et donc, elle donne Zilpa. Alors que Bilha était donnée à Yaakov par besoin, Rachel n'avait pas d'enfants, Zilpa n'est pas donnée par besoin, mais par valeur. Je comprends la valeur qu'il y a à avoir des enfants, et donc, j'en veux encore. Ce n'est pas parce que j'ai besoin, mais c'est parce que je comprends l'importance. C'est encore plus fort. Et donc, il y aura un autre Bechor qui s'appelle Gad. Gad est là pour que Issachar vienne au monde. Donc, on est comme dans Dan pour Yosef, à la différence que ce n'est pas un besoin, ce n'est pas un tzorer, c'est un erer, c'est une valeur profonde. Et enfin, nous arrivons au dernier Bechor, Yosef, le Bechor de Rachel. Lorsque Yosef naît, Rachel dit « Asaf Elohim et Herpati »« Dieu a enlevé ma honte, Asaf »« Vatikret Shemo » Elle aurait dû l'appeler Asaf, mais non, elle l'appelle Yosef. Les morts, Yosef li ben Acher. Yosef vient au monde pour que Binyamin vienne au monde. Cette fois, il protégera dans son essence son petit frère, mais ce n'est pas son petit frère Stam, c'est son frère de père et de mère. Yosef est donc le Bechor ultime. Seulement, vous allez me dire, pas vraiment, puisque Yosef est là pour protéger Binyamin, mais Binyamin n'est pas encore né. La vérité, il faudra attendre encore 4 générations pour arriver au Bechor Bemet ultime, le fils de Amram, Aharon, qui va être Sameach Begdulat Achiv. Veraacha Vesamach Belibo, Aharon est heureux profondément que son petit frère soit plus grand que lui. Il l'a amené là où il est. Aaron deviendra le Bechor ultime. Ça y est, Am Israël est créé pratiquement. Les 11 tribus, il manquera Binyamin qui naîtra la semaine prochaine, dans la paracha de la semaine prochaine, mais les 11 tribus sont prêtes et surtout Yosef est là. Au moment où Yosef arrive, Yaakov dit à Lavan, « Zéou, je rentre à la maison. » Pourquoi ? Nous disent nos sages, « Nolat sitno shel Esav » C'est quoi Nolatsid? Comme on a dit, est né celui qui peut rivaliser avec Esav. Pas au niveau de la force physique, mais au niveau de l'idéal du Bechor. Esav a rejeté sa Bechora. Yosef est le Bechor qui est là pour prendre la responsabilité de son frère. Donc maintenant, Yosef est né, on peut rentrer à la maison. Nos sages diront, Yosef c'est Gematria, Sion. Sion. Hop, le sionisme est né, on peut rentrer à la maison. Yosef, pour l'instant, n'est que Yosef. Mais Yosef a un rôle à jouer. Yosef a le rôle de devenir petit à petit Mashiach ben Yosef. Alors on pourrait se dire, ça y est, Yaakov rentre à la maison direct. Eh bien non. Laban va le convaincre de rester encore 6 ans. Pourquoi ? Pour la Asof Kesef. Pourquoi ? Pour faire de l'argent. On pourrait se dire, non mais Bémet, c'est pas obligatoire. Mais si. Parce que si Yaakov veut amener la Géoula, eh bien la Géoula ne peut pas se faire sur un terrain vide. Il se doit de maîtriser ce monde-ci pour pouvoir dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. La bracha de Parnassa dans la Hamida vient avant la bracha de Géoula de Tekah Beshofar Gadol et Reuten. Et donc, Yaakov va rester pendant 6 ans pour se remplir de Olam Hazeh, remplir ses troupeaux pour pouvoir finalement rentrer et y dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Qui sont ces troupeaux? Qui sont toutes ces richesses, ces troupeaux que Yaakov a amassés? Eh bien, répondra à cela le Baal Shem Tov. Vous savez, le Baal Shem Tov avait un nigoun, une musique à lui toute particulière qu'on appelle nigoun à Baal Shem Tov, qui est très très particulière. Et quand ses élèves lui ont demandé mais d'où il tenait ce nigoun, eh bien, il répondait, ça, je l'ai entendu quand j'étais une brebis dans le troupeau de Yaakov Avinu. Il rentrait le soir fatigué et il nous chantait ça à nos oreilles. En d'autres termes, c'est quoi tout ce tson qui arrive, tout ce troupeau que Yaakov va amasser? C'est en potentiel l'idéal des Nishmot Israël. Nous disent nos sages qu'il y avait 600 000 têtes de bétail chez Yaakov. Évidemment que le chiffre est exagéré, mais c'est pour nous dire que cela représente l'identité d'Israël. Yaakov est parti en exil, créer le peuple juif, apprendre aux nations quel est le rôle de ce peuple juif pour le monde. Et maintenant que c'est fait, eh bien Yaakov peut se préparer à rentrer à la maison dans la paracha de la semaine prochaine. Shabbat shalom les koulam.